Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique, l'émission du service politique d'RFI en partenariat avec Libération et l'AFP. Et ce mardi, c'est un spécial municipal. À 5 jours du premier tour, nous recevons 2 invités. Dans la deuxième partie de Mardi Politique, tout à l'heure, nous recevrons Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Et avec lui, nous parlerons des objectifs de son parti, bien sûr, pour les municipales, mais aussi des bisbilles avec le parti de gauche. Mais maintenant, dans ce studio, nous retrouvons Nicolas Bay. Vous êtes secrétaire général adjoint du Front National, directeur de la campagne des élections municipales. Bonsoir.
Bonsoir.
À mes côtés pour l'interroger, Philippe Ognillon pour l'AFP, Lilian Alemania pour Libération. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors le Front National joue gros, on le dit beaucoup, hein, sur cette élection. Le FN veut montrer qu'il faut plus que jamais compter avec lui, qu'il s'installe dans le paysage et qu'il se professionnalise aussi, même si on verra que ça coince aussi parfois. Mais avant qu'on évoque ce scrutin, ces élections municipales, Nicolas Bay, arrêtons-nous un petit peu sur l'Ukraine. Vladimir Poutine a signé aujourd'hui un traité rattachant, annexant la Crimée, comme on veut le dire, à la Russie, et ça avec effet immédiat. La France condamne, la Grande-Bretagne, les États-Unis aussi. Londres a suspendu toute coopération militaire avec la Russie. Barack Obama veut une réunion des dirigeants du G7. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette décision de la Russie ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dirigeants français font ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'ils s'alignent avec beaucoup de docilité sur les positions et sur les intérêts américains dans cette affaire. Évidemment, il serait naturel que les pays européens, et notamment la France, prennent un peu de recul sur la situation et respectent quand même le choix des habitants de Crimée.
Pour vous, c'est pas une annexion ?
Non, parce qu'il y a quand même un référendum. Alors, je sais qu'en France, quand les Français se prononcent par référendum, on balaye ça d'un trait de plume et on fait passer le même texte par voie parlementaire. Mais le constat, c'est que une quasi-unanimité
des habitants de Crimée souhaite. Mais il faut considérer que c'était des élections libres réellement. Il y a quand même une pression des soldats russes.
Non, mais qu'il y ait une pression internationale et même locale, c'est une chose. Mais il y a quand même un choix qui a été exprimé. Et ce choix, d'ailleurs, ne fait que remettre en cause une décision récente, puisqu'il faut quand même pas oublier que la Crimée ne fait partie de l'Ukraine que depuis les années 50, par une décision de Khrouchtchev à l'époque. Par conséquent, c'est un changement par rapport à une décision qui date finalement de quelques décennies seulement. Il serait quand même normal de respecter la liberté aussi du peuple de Crimée, alors que nous avons accepté sur la scène internationale que l'Ukraine débarque en quelque sorte son président alors même qu'il avait été élu démocratiquement, si vous voulez. Il faut faire un peu attention. Là, on est en train de nous aligner totalement sur les positions des États-Unis.
Et on aurait pu imaginer une consultation globale en Ukraine qui n'aurait pas concerné que la Crimée sur l'avenir du pays. On aurait pu imaginer d'autres questions.
Mais on aurait pu imaginer beaucoup de choses. Et la façon dont les choses se déroulent n'est sans doute pas idéale. Mais maintenant, il y a quand même une réalité. C'est que les habitants de Crimée se sont prononcés à une écrasante majorité en faveur de leur rattachement à la Russie. Et on ne peut pas négliger cet aspect des choses.
En deux mots, on peut dire que le FN est pro-russe ?
Je pense que ce serait un peu simpliste de dire ça, mais en tout cas, nous ne sommes pas, par principe, anti-russes et pro-américains. Et le problème, c'est que toute la diplomatie française et européenne, avec un coup d'accélérateur avec Sarkozy et avec Hollande, est totalement alignée aujourd'hui sur les choix géopolitiques des Américains. Je crois que c'est une bonne chose que la France et l'Europe aient une position équilibrée sur ces questions-là et ne soient pas à la remorque des intérêts américains.
Et c'est quoi une position équilibrée, Nicolas Bay ?
Eh bien, ça consiste à faire la part des choses d'une situation et à ne pas immédiatement considérer que la position des Américains est la bonne. C'est-à-dire, ça consiste à ne... C'est pas parce que les Américains refusent que la Crimée redevienne russe, puisqu'elle l'était il y a encore 70 ans.
C'est pas que les Américains, il y a beaucoup d'Européens aussi.
Oui, mais parce que, encore une fois, dans cette affaire, les Européens s'alignent sur les positions américaines. La réalité, encore une fois, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes aussi qu'il faut entendre. Or, on a l'impression que le choix exprimé par référendum est considéré comme quantité négligeable. C'est quand même assez extraordinaire. Alors on sait bien que la démocratie, les dirigeants européens ont un vrai problème avec. Hein. On sait bien que le peuple qui s'exprime, on évite de trop écouter ce qu'il dit. Mais enfin, il est quand même naturel que le choix exprimé par référendum soit totalement pris en considération.
Lilian Alemania.
Mais si on revient sur les conditions de ce référendum, il s'est fait en présence de soldats russes qui ont débarqué sur le sol de Crimée. Il n'y a pas eu de campagne équitable. Il n'y a pas eu de débat entre les différentes positions.
Mais qu'il y ait une situation de tension, c'est une évidence. Maintenant, il n'y a pas eu de violence majeure à ma connaissance. Et puis, il y a surtout un choix qui est fait à une écrasante majorité. Si, à la faveur de pression, justement, le choix avait été fait à 55-45, en effet, on pourrait remettre en cause la légitimité. Mais là, c'est une écrasante majorité. Donc, on voit bien que en Crimée, il y a une volonté des habitants de revenir dans le giron de la Russie. On peut en penser ce qu'on veut. On peut l'analyser comme on veut. Mais c'est le choix d'un peuple. Et c'est le choix qui correspond à leur histoire. Parce que il y a 70 ans, ils étaient dans le giron russe.
Mais encore une fois, vous parlez de choix d'un peuple. On a aussi parlé de fraude électorale. C'était organisé extrêmement rapidement. Est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus nuancé sur cette question
Je crois précisément qu'il faut être plus nuancé et ne pas condamner a priori la position des Russes, ne pas condamner a priori le choix des habitants de Crimée. Or, aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. La position française consiste simplement à s'aligner sur ce que dit Barack Obama.
Donc,
je crois que c'est pas une bonne chose.
Quand on parle de retour du climat de guerre froide, on exagère.
Mais je crois qu'on exagère et on agite des peurs. Dans cette affaire, on essaye en réalité de créer des problèmes au-delà de ce qu'ils sont réellement. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, ça n'a posé de problème à personne ou pas à grand monde. Là, il n'y a aucune invasion militaire. Il y a simplement une volonté exprimée par un peuple de revenir dans la Fédération de Russie, dont il faisait partie il y a encore quelques décennies. Bon, on
donc
peut quand même prendre en compte ce choix.
Vladimir Poutine, il peut être là pour les cérémonies du débarquement, il faut maintenir l'invitation.
Mais je crois qu'il n'y a aucune raison, en tout cas, de rompre nos relations diplomatiques avec la Russie sous ce prétexte-là. On peut avoir une position nuancée, même être préoccupé par la situation là-bas, c'est pas illégitime, mais prendre une position extrêmement tranchée, plaçant la Russie au banc des nations, l'écartant du G8, tout ça, ça relève de choix des États-Unis en fonction de leurs intérêts à eux, qui ne sont pas forcément les nôtres.
Revenons au municipal dont on parlait au tout début, et notamment sur le dépôt des listes. Alors, cette année, 596 listes, vous dépassez largement le record historique de 95. Je rappelle que c'était 512 listes. Globalement, il semble que ça a été compliqué de recruter des candidats. Vous avez beaucoup de primo-candidats, c'est vrai, mais vous avez aussi beaucoup de candidats qu'on a qualifiés de candidats malgré eux. Donc, on va citer quelques cas, celui de Marie-Louise J, 95 ans, sur une de vos listes à Enghien-les-Bains, elle est morte depuis le 18 février. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé aussi à ce que leur nom soit retiré au Grand Quévilly, c'est en Seine-Maritime à côté de Rouen, et c'est chez vous en plus. Votre liste a été retirée par la préfecture, 32 personnes et 22 candidats ont demandé à ce que leur nom soit retiré. Dans beaucoup d'autres régions, il y a des procédures qui ont été ouvertes contre le parti, abus de faiblesse, faux et usage de faux. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas Bay ?
D'abord, il faut rétablir la vérité. Il y a 596 listes du Front National. Ouais. C'est une présence massive qui nous assure une présence dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, dans 45% des communes de plus de 10 000 habitants. Et là, vous parlez de cas particuliers sur 20 500 candidats. Il y a 20 500 candidats du Front National sur nos listes.
Autant de cas
oui, alors non mais je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé est très simple et je l'ai vu d'autant plus près que c'est dans mon département. Les mairies socialistes qui ont vu des listes Front National se constituer dans des endroits où ils étaient jusqu'à présent le PS en position de monopole absolu ont vu ça évidemment d'un très mauvais œil et ont organisé le démarchage systématique et méthodique de nos colistiers pour obtenir leur retrait de candidature. Et c'est vrai que nos listes, parce que nous avons une assise populaire, ne sont pas constituées, contrairement à celles du PS ou de l'UMP, uniquement d'apparatchiks politique ou notable.
Non, mais d'accord,
nous avons
mais par
des
exemple...
personnes qui sont dans des positions de vulnérabilité sociale et de façon très antidémocratique, les mairies socialistes ou communistes ont démarché systématiquement ces gens-là en leur mettant la pression pour les inciter à retirer leur candidature. Voilà ce qui s'est passé. Après, sur le cas d'Enghien-les-Bains, ça n'a rien à voir. C'est une personne très âgée qui figurait en place d'honneur sur la liste parce que c'est une militante historique.
Ans.
C'est une militante historique du Front National qui, malgré son âge très avancé, souhaitait figurer en place d'honneur, c'est en dernière place sur la liste, sans aucune perspective, bien sûr, d'être élue, parce qu'elle a toujours été candidate sur cette liste à Enghien-les-Bains. Et évidemment, notre tête de liste, Jean-Michel Dubois, a accédé à cette demande. Cette personne est décédée parce qu'elle est très âgée. Ça n'a d'ailleurs aucune incidence pratique dans la mesure où, de toute façon, elle n'aurait pas été élue. Donc, ça, si vous voulez, nos listes municipales, elles sont constituées, bien sûr, en début de liste, souvent, de personnes qui ont vocation à siéger au conseil municipal. Mais c'est vrai, nous le reconnaissons volontiers, il y a sur nos listes aussi des personnes qui sont présentes en position subalterne et qui sont là uniquement pour permettre qu'il y ait une liste Front National.
Mais sur le cas d'Orléans, par exemple, le parquet a ouvert une enquête pour abus de faiblesse, faux et usage de faux. Il y avait sur votre liste un couple de nonagénaires dont l'épouse est hospitalisée car atteinte de la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est pas sérieux.
Écoutez, moi, j'ai pas tous les éléments précis, mais ce qui est sûr, c'est que dans le cas précis d'Orléans, c'est la fille ou le fils, je ne sais plus, qui a inscrit ses parents. Donc, c'est pas notre candidat lui-même n'est pas en cause. Mais encore une fois, moi, je veux bien qu'on parle de tous les cas particuliers. Il y a 600 listes, il y a 21 000 candidats du Front National. Et là, on parle de 2-3 cas particuliers.
Non, voilà. Il n'y a pas 2-3 cas. Si, encore une fois, vous êtes que
une dizaine, oui, d'accord.
Procédures judiciaires. Bon.
Mais, oui, et puis les procédures judiciaires, c'est nous qui les avons engagées. Parce que,
lorsque... Vous avez porté plainte, finalement,
bien sûr,
à Rouen, Grand
Quevilly. Oui, ouais. Les pressions qui ont été exercées contre nos colistiers, non seulement nous avons déposé plainte, mais nous avons versé au dossier judiciaire des preuves matérielles et des témoignages qui sont concordants, qui sont accablants.
Vous l'avez fait récemment ou...
Oui, récemment, oui, il y a quelques jours. Et qui montrent de façon très concrète et précise que des maires, y compris les maires en personne, ont fait du démarchage à domicile de nos colistiers, en leur demandant de remplir des formulaires de retrait de candidature. Et en usant, bien sûr, du fait que certains de nos colistiers, par exemple, sont bénéficiaires d'aides sociales ou de logements sociaux. Mmh. Et en leur faisant bien comprendre que ça pourrait être remis en cause s'ils maintenaient leur candidature. Tout ça, ce sont des procédés de voyous. C'est des procédés abjects. Alors, il y a un temps pour tout. Nous sommes en campagne électorale. Mais viendra le temps judiciaire et le Front National sera présent, engagera toutes les procédures nécessaire pour faire condamner ceux qui se sont livrés à ces méthodes absolument antidémocratiques.
Parlons de la Lilian Alemany à l'instant.
Sur vos listes, vous avez aussi, aujourd'hui on a donné le chiffre de 80 étrangers communautaires, donc qui font partie, qui ont la nationalité de l'Union Européenne et qui ont le droit et de voter et de se présenter sur une liste municipale. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au Front National de présenter des candidats qui ont la nationalité, qui ont une autre nationalité que la nationalité française, et de contredire, de ne pas être pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, globalement?
Non, d'abord, nous avons une position sur ces questions qui est assez nuancée. Marine Le Pen avait rappelé pendant la campagne présidentielle que nous n'étions pas opposés à la binationalité, par exemple, pour les ressortissants des autres pays de l'Union européenne. Là, dans le cadre du droit de vote, nous sommes en effet pour que le droit de vote soit attaché à la citoyenneté.
Ben, c'est pas le cas. Maintenant,
il y a aussi la réalité du droit actuel. Nous souhaitons modifier le droit actuel, mais en même temps, nous sommes des républicains, nous respectons la loi telle qu'elle est et nous l'appliquons telle qu'elle est.
Mais elle vous oblige pas d'avoir des candidats étrangers.
Non, ça ne nous oblige pas, mais il est certain que d'ailleurs ces personnes qui sont de nationalité d'autres pays de l'Union européenne et qui sont présentes sur nos listes, qui s'impliquent dans la vie civique, au sein d'ailleurs d'un mouvement politique patriote, je pense qu'ils répondent à tous les critères pour bénéficier de la nationalité française.
Mais pourquoi un Allemand pourrait être sur votre liste et pas un Algérien, par exemple?
Mais d'ailleurs, non, mais c'est tout simplement parce que le droit l'empêche aujourd'hui.
Mais si le droit le pouvait.
Non, mais si vous voulez, nous avons toujours dit que la nationalité française, elle s'hérite ou elle se mérite. Donc, si il y a des gens qui, par leur engagement civique, par leur assimilation qui est exemplaire, pourraient prétendre à la nationalité française, nous n'y voyons aucun inconvénient. Et je crois que ces étrangers de l'Union européenne qui sont sur nos listes correspondent exactement à ce cas-là. Encore une fois, nous respectons la loi telle qu'elle est, mais c'est vrai que si nous arrivons en responsabilité, nous souhaiterions que le droit de vote soit strictement réservé aux citoyens français.
Ça, mais c'est un peu, il y a les bons et il y a les mauvais étrangers.
Non, mais ça n'empêcherait d'ailleurs pas des personnes qui, encore une fois, sont parfaitement assimilées, aiment la France et s'investissent dans la vie civique de la France, de demander leur naturalisation, et je pense qu'ils pourraient évidemment y prétendre.
Alors parlons un peu des thèmes que vous mettez en avant dans cette campagne. Gilbert Collard était en réunion publique à Saint-Gilles-du-Gard hier, et voilà ce qu'il disait.
Depuis que je me promène dans Saint-Gilles, je suis à piller d'enculés, de fils de pute, de nique ta mère. Je m'y suis habitué, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'on mettra, croyez-moi, de l'ordre. On fera le ménage.
Faire le ménage, c'est ça une des propositions du programme du frontisme municipal.
Bah oui, de façon imagée, Gilbert Collard rappelle que en effet, il faut rétablir la sécurité. Et contrairement,
vous reprendriez ces mots?
Non, parce que c'est son expression à lui, et je lui en laisse la responsabilité, mais c'est pas le sujet. En revanche, il y a une nécessité, c'est à établir la sécurité dans les municipalités. Et c'est vrai que c'est la sécurité publique qui est la première des libertés, c'est une fonction régalienne de l'État. Le constat, c'est que l'État, UMPI, RPS aujourd'hui, est incapable d'assurer la sécurité des Français, et par conséquent, parce qu'il ne s'en donne pas les moyens, et par conséquent, les municipalités peuvent agir. En ayant, par exemple, des polices municipales qui ne sont pas utilisées à mettre des PV toute la journée sur les pare-brises.
Vous avez recruté les policiers municipaux?
Oui, je pense qu'en effet, on peut augmenter les moyens, les effectifs de la police municipale, la former, l'armée, pour qu'elle puisse mener une vraie mission de police et de sécurité publique. Et c'est vrai qu'il y a des villes très durement touchées par l'insécurité où, dans notre projet municipal, nous souhaitons évidemment mettre l'accent en priorité sur le rétablissement de la sécurité, parce qu'il n'y a pas de qualité de vie, il n'y a pas de prospérité économique s'il n'y a pas un minimum de sécurité publique.
Sur les enjeux de ces municipales, il y a évidemment des symboles. Est-ce que, pour vous, c'est important de gagner Hénin-Beaumont par chaos au premier tour? C'est possible?
Je pense que on peut gagner à Hénin-Beaumont et peut-être gagner au premier tour, c'est ce que je souhaite, et je pense que Steve Veywa le mérite et verra là la récompense du travail remarquable qu'il effectue depuis des années à Hénin-Beaumont. Je pense d'une façon générale qu'on peut gagner dans un certain nombre de villes.
Combien?
Et pas forcément d'ailleurs uniquement celles où on nous attend.
Combien de villes?
Non, mais on ne fait pas de pronostics chiffrés.
10, 15.
Non, mais on cite abondamment une dizaine de villes où on sera en situation de l'emporter, notamment.
Un millier de conseillers municipaux?
Oui, ça, je pense qu'on peut l'atteindre tout à fait raisonnablement, avec 600 listes sur la ligne de départ. Et, je pense qu'on pourra passer la barre des 1000 élus municipaux, c'est-à-dire doter le Front National d'un maillage d'élus locaux qui jusque-là lui faisait défaut, un maillage d'élus locaux qui lui donnera une crédibilité, une assise locale.
Sur Hénin-Beaumont, vous souhaitez la victoire au premier tour, mais vous savez aussi que parce qu'au deuxième, ça s'annoncerait probablement beaucoup plus compliqué. Vous craignez ce front républicain qui persiste?
Bah, écoutez, on a vu ce qui restait du front républicain avec la dernière élection partielle à Brignoles. En réalité, le Front républicain...
Vous l'aviez déjà eu, ce canton, c'était pas la première fois.
Oui, mais le Front républicain, aujourd'hui, je crois qu'il a du plan dans l'aile pour une raison simple, c'est qu'il n'a rien de républicain. Et parce qu'en réalité, c'est l'alliance des intérêts du système et de ses représentants. Je crois qu'aujourd'hui, le Front national a une capacité d'attraction très forte, à la fois sur des électeurs déçus de la droite, mais aussi sur des électeurs déçus de la gauche. On a vu, lors des élections partielles de 2013, aussi bien dans les élections législatives de Villeneuve-sur-Lot, dans l'Oise ou de Brignoles, que le Front National était la formation politique qui était la plus à même de rassembler les électeurs déçus de la gauche, écœurés par la politique antisociale du gouvernement. Et aujourd'hui, beaucoup d'électeurs qui ont voté François Hollande en 2012, qui ont voté pour le Parti Socialiste aux législatives, seront plus enclins à voter pour des candidats du Front National plutôt que pour des candidats de l'extrême-gauche ou de l'UMP, dont ils savent qu'ils mèneront une politique tout à fait similaire à celle du PS.
Nicolas Bay, on a compris que vous espériez beaucoup pour ces municipales, mais est-ce que, en fait, pour vous, le vrai scrutin, ça ne sera pas plutôt les européennes? Enfin, mais beaucoup de sondages vous placent d'ores et déjà en tête. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous rentrerez vraiment dans la cour des grands?
C'est deux scrutins différents. C'est vrai que nous avons de très belles perspectives aux élections européennes. Nous allons pouvoir peut-être sortir de ce scrutin en étant le premier parti de France, avec de très nombreux députés européens, en situation aussi de peser au Parlement européen, en constituant un groupe avec d'autres formations politiques européennes qui partagent nos vues, notamment sur la construction européenne et sur les défauts de la construction européenne actuelle. Mais les municipales sont une étape absolument fondamentale. Le fait d'avoir des élus municipaux du Front National partout en France, qui font un travail de fond, qui acquièrent une légitimité, c'est une étape dans la crédibilité de notre mouvement qui est essentielle. Et je crois que nous sommes en train de remporter ce défi parce que nous avons une présence massive aux élections municipales. Certains, comme M. Lavrieux, n'y croyaient pas une seconde et disaient que le Front National serait incapable de présenter de très nombreuses listes municipales. On a apporté la démonstration du contraire. La deuxième étape, ça va être le 23 et le 30 mars, montrer que nous pouvons avoir gagné des villes et les gérer mieux que nos adversaires ou nos concurrents et avoir de très nombreux élus municipaux dans tous les départements.
Et très rapidement, tous les autres partis s'inquiètent de l'abstention, ça peut aussi vous toucher.
Oui, c'est d'autant plus préoccupant, en effet, le détournement des Français à l'égard de la vie civique, le désintérêt même parfois, est une vraie préoccupation. Mais il est certain que lorsqu'en permanence, on ne parle pas des vrais problèmes des Français, qu'on agite des sujets secondaires, les écoutes téléphoniques, les histoires de spectacles annulés, etc., alors que le problème des Français, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, eh bien, on les détourne aussi, on les écœure de l'action politique. Et nous, ce que nous voulons au Front National, c'est leur montrer que il y a un mouvement politique qui parle de leurs préoccupations essentielles, sans rentrer dans les sujets dérivatifs.
Merci à vous. On va devoir s'arrêter, Nicolas Bay. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du Front National et directeur de la campagne des municipales. On se retrouve dans quelques minutes après les informations.